Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 13. Le lendemain, malgré la météo incertaine, Anthony enfourcha son vélo pour se rendre chez Jean-Jacques sous les yeux incrédules de son père. « Et s'il pleut ? » s'inquiéta-t-il. « Alors je serai mouillé, » répondit simplement le jeune homme en s'éloignant sur son deux roues. Le père leva la main pour le saluer et la laissa retomber en signe de découragement. Il savait qu'il était inutile d'essayer de le raisonner, mais il déplorait les choix curieux de son fils depuis quelque temps. À quel moment devait-on s'inquiéter d'un comportement déviant ? En était-ce un ? Est-ce qu'il était déjà trop tard ? Il ne s'était jamais posé ce genre de questions au sujet d'Anthony, qui était un élève modèle et un enfant facile. Jusqu'ici, tout avait fonctionné sans intervention de sa part, mieux que prévu même. Il évita de confier cette angoisse nouvelle à son épouse qu'il savait déjà inquiète, et monta dans sa voiture pour partir travailler. Anthony laissa vagabonder son esprit tout en pédalant. Des souvenirs de son enfance lui revinrent. Ses premiers tours de pédale, sans les roues stabilisatrices, dans la cour de son école. Ses rollers dont il avait usé les roues en un seul été, en apprenant à faire des sauts sur un tremplin installé par la mairie. Cette insouciance bénie des longues vacances scolaires d'été, où le plus épineux problème est de trouver un accord avec les copains sur l'activité de la journée. Parfois, se retrouver seul, et l'apprécier aussi. Soudain, au milieu d'une route entourée d'arbres et de champs immenses, se rendre compte qu'on est minuscule mais qu'on existe, malgré tout, être face à soi-même. Anthony arriva sur la propriété de Jean-Jacques, qui n'était pas encore prêt. Il s'en excusa immédiatement par la fenêtre de sa cuisine, il tenait un torchon à la main. « J'ai pris du retard en faisant la vaisselle seule. » Anthony posa sa monture et se dirigea vers l'abri à vélo pour en sortir celui de Jean-Jacques et les remorques. Il examina la fixation qui permettait d'arrimer les bicyclettes à leurs remorques et s'aperçut qu'elle était incompatible avec son propre vélo, dont les tubes en métal étaient d'un diamètre trop élevé. Il sortit alors le vélo de Marion et rangea le sien sous l'abri. Une fois les remorques solidement arrimées, il les remplit de cagettes vides qu'il trouva sous la pentille. Jean-Jacques sortit enfin et fut agréablement surpris de l'initiative du jeune homme. Il le remercia et enfourcha immédiatement son vélo en jetant un œil inquiet aux nuages qui semblaient vouloir s'accumuler au-dessus de leur tête. Cependant, il ne pleuvait toujours pas. Ils s'élancèrent sur le chemin et le silence n'était troublé que par le brinque-ballement des cagettes de bois sur les remorques. Aucun d'eux n'avait envie de parler pour l'instant et le ciel couvert semblait étouffer tous les sons. Quelques gouttes commencèrent à tomber sur le guidon d'Anthony, puis il en reçut une sur la main, le front. La pluie arrivait très progressivement, si bien qu'au début il eut l'impression qu'il pouvait passer entre les gouttes, selon l'expression consacrée. Mais très rapidement, il dut se rendre à l'évidence, plus un centimètre carré de sa peau ou de ses vêtements n'était sec. Il jeta un œil à son chargement et la vue des cagettes détrempées lui fit réellement prendre conscience de la situation. Il allait passer la journée entière sous la pluie, sans protection aucune. Jean-Jacques avait pris la précaution de déployer une pèlerine juste avant l'averse, sans cesser de pédaler, mais elle ne protégeait que le haut de son corps, et toute l'eau finissait par s'écouler sur son pantalon qui, lui, n'était pas étanche. Il tourna la tête vers le jeune homme et le voyant ébouriffé par la pluie et le vent qui venait de se lever, sourit et brisa enfin le silence. « Ça va ? C'est un peu humide aujourd'hui, non ? » répondit-il après s'être essuyé la bouche. « Un peu, mais il en faut de la pluie. Ça d'accord, mais faut-il des zigotos à vélo dessous ? C'est pas sûr. » Ha ha! Passez les premières minutes, tu verras, ça ira mieux. À vélo, il y a une chose qui est pire que la pluie. La grêle, risqua Anthony, voyant que son compagnon de route laissait sa phrase en suspens. Non, la peur de la pluie. Anthony essaya de comprendre la portée philosophique de cette remarque, mais alors que l'eau commençait à mouiller ses chaussettes, il échoua dans un premier temps. Ce n'est que plusieurs minutes plus tard, alors qu'il se surprit à penser à autre chose et qu'il était cette fois complètement trempé, qu'il en comprit la profondeur. Il se redressa et essaya de décontracter les muscles de ses épaules qui jusque-là semblaient vouloir protéger son corps de l'inévitable douche. Le visage offert aux intempéries, le corps enfin résigné au ruissellement du liquide, le ciel sembla soudain s'éclaircir et son esprit avec lui. Il regarda Jean-Jacques qui le précédait de quelques encablures, celui-ci se retourna juste à ce moment et lui sourit simplement. Sous cette pluie battante, ils étaient ensemble. De nouveaux abricots avaient mûri et la pluie qui pesait sur les arbres accentuait leur effort à soutenir les lourds fruits. « Ramasse ceux qui sont à terre et range-les dans une cagette à part. On les gardera pour les confitures. »« Vous faites aussi les confitures ?»« J'essaie de faire en sorte qu'aucun fruit ne soit gâché. À l'autre bout du monde, des gosses crèvent de faim. »« Malheureusement, vos confitures ne les nourrissent pas. »« C'est vrai, mais c'est une question de principe. » Ils continuèrent à ramasser les fruits quelques minutes, puis Jean-Jacques se sentit obligé de poursuivre sa réflexion. « En fait, c'est un peu plus qu'une question de principe. En essayant de tirer le meilleur parti de ce que nous donne la nature, » je m'élève contre l'idée qu'il suffirait de produire plus à n'importe quel prix pour satisfaire les besoins de tous. Si des gosses crèvent de faim, c'est bien parce qu'ils n'ont pas assez, non? La question est de savoir s'ils n'ont pas assez parce qu'on ne produit globalement pas assez ou parce qu'on ne sait pas partager correctement tout ce qu'on produit et qui serait largement suffisant pour nourrir toute l'humanité. C'est vous qui le dites, vous avez fait le calcul? Moi non, mais des gens l'ont fait, il est sans appel. Tout cela grâce à l'agriculture intensive, remarqua Anthony, sans avoir l'intention de polémiquer sur cette question. Précisément non. L'agriculture intensive est incapable de subvenir aux besoins des populations. C'est une fable qu'on nous raconte et à laquelle tu crois, on dirait. Vous n'y croyez pas, vous? Je me méfie de toutes les croyances. Je préfère m'attacher aux faits et à la science. La science? Celle qui nous conduit justement à l'agriculture intensive? Ne confonds pas la globalité de la science et l'industrie qui l'utilise à son profit en truquant les hypothèses de départ. Quelles sont ces hypothèses? Par exemple, l'idée qu'il faille maximiser le rendement par agriculteur au lieu de maximiser le rendement à l'hectare. C'est un choix délibéré qui n'a pourtant rien d'évident. Je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que tu as déjà entendu parler des trois sœurs? Les trois sœurs de qui? C'est un mode de culture particulier pratiqué traditionnellement en Amérique du Sud. On plante, dans le même champ, trois espèces de plantes qui s'entendent particulièrement bien, du maïs, de la courge et du haricot grimpant. Dans le même champ? La tige du maïs sert de treille au haricot grimpant. Le haricot fixe l'azote dans le sol, ce qui sert à la croissance du maïs et des courges. Les courges étalent leur feuillage sur le sol, ce qui retient l'humidité et réalise une sorte de paillage naturel. Et les épines éloignent les herbivores. Je te laisse imaginer le rendement global d'un tel assemblage sans aucun apport chimique, bien sûr. Cerise sur le gâteau, ces trois aliments constituent un régime équilibré pour la population. Mais il y a un énorme inconvénient qui empêche l'industrie de s'y intéresser et donc de reconnaître l'intérêt d'un tel mode de culture. Lequel? Pas moyen d'y coller un tracteur. Tout doit être récolté à la main. Jean-Jacques chargea une cagette pleine dans sa remorque et continua sa cueillette un peu plus loin. Anthony fit de même en réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. Il n'avait jamais entendu parler de cette histoire de culture triple et la considéra d'abord comme une pure légende. Un pays lointain, des coutumes ancestrales, un résultat presque magique et un nom poétique, les trois sœurs, tous les ingrédients étaient là pour attirer le paysan crédule et le manipuler pour une cause qu'il n'arrivait pas à deviner. Il mémorisa les détails de cette information en se promettant de vérifier plus tard sur Internet. Quand toutes les cagettes furent pleines et chargées dans les remorques, ils chevauchèrent leurs bicyclettes pour se rendre au bourg voisin où c'était jour de marché. Celui-ci était beaucoup plus important que la dernière fois. Des dizaines de commerçants étaient déjà installés et commençaient à vendre leurs marchandises, tandis que d'autres arrivaient seulement et déployaient leurs étals de fortune. Jean-Jacques s'approcha d'un maraîcher de sa connaissance et le salua. « Ah, les abricots de Jean-Jacques !» s'exclama le commerçant avant même de le saluer en retour. « Je t'en amène quelques cagettes, » dit-il en lui montrant la récolte du jour. « Tu sais qu'il ne m'en reste pas un seul de la semaine dernière. Ils m'ont tout raflé, et j'ai dû me battre avec ma femme qui voulait que je lui en garde une poignée pour nous. Ceux-ci sont encore plus mûrs, mais il faudra les manger rapidement. » Ne t'inquiète pas pour ça, regarde, il y a déjà des gens qui t'ont vu arriver et qui rappliquent ici. Effectivement, un couple se pressait en leur direction, ainsi que deux femmes portant chacune un cabas pourtant déjà bien garni. Ils déchargèrent la plupart des cagettes derrière l'étal du maraîcher et s'éclipsèrent aussitôt, Jean-Jacques ne souhaitant pas être en contact direct avec les gens qui achetaient ses fruits. Anthony s'en étonna, ainsi que du fait qu'une fois encore, il n'avait pas demandé d'argent en échange de sa livraison. Il garda cette question pour plus tard. « Où va-t-on maintenant ?» Nous allons déjeuner chez un ami restaurateur. La personne qu'on a rencontrée la semaine dernière? Oui, c'est ça. J'avais oublié que tu l'avais déjà vu. Il n'est pas un peu tôt pour manger? Pour ne pas le déranger, on va s'incruster chez lui avant son premier service. Il sait que nous venons aujourd'hui? Non. Mais il ne sait pas non plus combien de clients il aura, ni ce qu'ils vont choisir sur sa carte, répondit Jean-Jacques en souriant.